Dans la matrice de Matrix, admirez les robots, vaisseaux, costumes, toute une collection d'objets de séries cultes et découvrez les interactions entre science et science-fiction. Retrouvez science et fiction aventures croisées dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
15h et tout juste 4 minutes sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Cela fait 1460 jours que Johnny Hallyday et sa famille sont retenus en otage en Suisse. Nous ne les oublions pas et espérons leur retour en France pour les fêtes de Noël.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Écoute, ça fait quelques paires d'années que je vous écoute. Celle-là, du vendredi 4 décembre, elle est vraiment monumentale. J'en pleure à moitié de rire et de dépit. Et je vous remercie et je souhaite que ça dure. C'était Cyril, au carreau d'arrache. Bravo.
Oui, bonjour, Jean-Jacques Marion de Strasbourg. Je vous appelle pour marquer toute ma sympathie à votre émission et à votre équipe. Et vous êtes le seul vraiment à exprimer le slogan véritable de France Inter qui est la différence. Je vous en remercie.
Je viens d'écouter votre émission sur les rencontres avec les politiques. Je l'écoute assez souvent finalement puisque France Inter est une des rares radios qu'on peut capter sur la route tout au long de son chemin. Une fois de plus, votre émission est la preuve que nous ne vivons pas dans une dangereuse dictature sous le joug de la droite la plus farouche, tout simplement parce qu'elle peut continuer à être diffusée et vous pouvez continuer à vomir sur ces sales capitalistes que nous sommes à droite. Voilà, bonne continuation, monsieur Mermet.
C'est madame Bobda du syndicat CGT, madame Vidal du syndicat Force Ouvrière de l'entreprise Éminence dans le Gard, une usine de textile. Et c'était pour dire que nous étions en grève depuis mardi par un froid de canard. Nous sommes dehors et notre direction est sourde à toutes nos propositions.
Bonjour, André de Vauvert. Ce matin, j'ai apporté mon soutien aux grévistes de l'entreprise Éminence. Toute la nuit, un piquet de grève a été mis en place par moins 5 degrés pour exiger une augmentation de salaire. Cette entreprise qui fabrique des sous-vêtements, bien connue, Éminence, est composée à 80% de femmes et actuellement les revendications relèvent d'une augmentation générale des salaires, sachant que Éminence annonce des résultats extrêmement positifs. La direction ne veut pas négocier, elle a poussé à mardi les éventuelles négociations. On ne voit pas comment ces femmes et quelques hommes vont pouvoir tenir les piquets de grève par un froid intense actuellement jusqu'à mardi. Et je voulais que partout on puisse entendre qu'il y a là une lutte importante, intéressante pour des femmes qui travaillent sur la chaîne et qui, me disait-elle, avec 30 ou 35 ans d'ancienneté, ne touchent que 1100 ou 1200 euros par mois. Éminence, vous qui êtes prêts à faire des achats pour Noël, sachez qu'à Éminence, on exploite durement des femmes et qu'il convient de les soutenir aujourd'hui. Amitié, au revoir.
Bonjour à tous. Jacques Lafleur est mort. Là où il va, j'espère qu'on lui demandera des comptes pour tout ce qui s'est passé dans les grottes de Numéa. Bonne journée.
Depuis plusieurs jours, à propos des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, nous entendons tout ce que compte notre presse de bonnes âmes sangloter sur ce déni de démocratie. Ça se passe en Afrique, et pour cette raison, ça n'est pas très étonnant, pense-t-il tout bas. Ce n'est pas dans notre pays qu'une chose pareille pourrait se produire. Bien sûr que non. Sauf que ça s'est produit. Au printemps 2005, le peuple français vote non à une large majorité. Cette expression ne plaît ni au pouvoir en place, ni à celui qui métronomiquement lui succédera. Alors, on se passe de son avis. Les élus de ce peuple, estimant qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui, inversent le résultat, transformant ainsi le bulletin de vote en une feuille de papier d'aisance. Alors, messieurs, un peu de retenue, un peu de pudeur. Ne voilez pas vos miroirs, à moins que vous ne soyez plus capable de pudeur. Ne parlez pas de république bananière, nos arbres sont couverts de bananes. Au revoir à toutes et à tous, et à bientôt.
Le voyage de notre VRP national en Inde, au départ, me paraissait devoir être un sujet assez comique. J'imaginais bien le couple bling-bling dans Shining India avec tout le mauvais goût des riches étalé au grand jour. Je me suis pas trompée. La visite de Monsieur Bruni dans les stations de recherche spatiale était absolument extraordinairement comique avec les réflexions de sa femme sur le petit satellite qui, on dirait un objet. Ça, c'était pas mal. Mais là où j'ai arrêté de rigoler, mais alors vraiment, c'est quand j'ai vu le petit reportage sur Arte samedi soir de la vente de 6 réacteurs nucléaires prévus par la France au gouvernement indien et qui doivent être situés dans une zone de campagne, une zone agricole visiblement verdoyante et expropriée des milliers d'Indiens qui se sont évidemment opposés à cela. Personne n'en parle. Même le réseau Sortir du nucléaire, dont je reçois les informations, n'a pas publié une ligne à ce sujet. Il y a actuellement quelques centaines d'Indiens en prison. Je pense que Daniel, qui connaît bien l'Inde, les Indes, pourra préciser l'endroit où se trouve ce projet et la révolte des habitants, qui n'ont pas du tout envie de se laisser faire, mais qui seront vraisemblablement expropriés. Fichu dehors, après des générations et des générations de travail de la terre, il y a des associations d'opposition en Inde, mais que peuvent-elles faire contre ce gouvernement et quelle est notre responsabilité à nous Français, puisque c'est Madame Louvergeon, une fois de plus, qui va détruire des vies et détruire l'avenir pour des milliers de personnes, pour le plus grand bénéfice de nos entreprises.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. En effet, le gouvernement indien envisage l'implantation de ces centrales sur un site qui se situe à Jaitapur, un site de 1000 hectares, et ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes, réticences et manifestations des populations alentour. On sait à quel point en Inde, on est capable de se mobiliser, de lutter. Et puis, on a de la mémoire dans ce pays. Comment n'en aurait-on pas si l'on songe à Bhopal, à ce que fut Bhopal en 1984, avec au moins 20 000 morts et des milliers de victimes qui réclament toujours aujourd'hui des indemnités depuis 1984. Alors, notre VRP en nucléaire est très fringant. Mais il y a des Indiens en Inde. Il y a des Indiens en Inde et un certain nombre d'entre eux ont de la mémoire. Et il y a des ouvriers à Aulnay-sous-Bois aussi qui ont de la mémoire. Aujourd'hui, un reportage de Pascal Pascariello à l'usine PSA Peugeot Citroën d'Aulnay-sous-Bois dans le 9-3, et on va voir que contrairement à l'image vraiment alors très très forte de ce que sont les jeunes des quartiers populaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire la racaille, allusion bien sûr à rapprocher avec notre VRP en centrale nucléaire, la racaille n'est pas forcément ce que l'on croit. Voilà, simplement, à travers ce reportage, on va en avoir une petite idée.
Non, mais à première vue, vous, si vous passez dans votre véhicule et que vous voyez quatre jeunes comme ça devant un café, en train de boire leur petit café tranquillement le matin, est-ce que ça vous effleurerait l'esprit qu'on est un parti syndicaliste ou quoi que ce soit, non? Qu'on est engagé, non, à aucun moment.
Vous avez grandi où ?
Dans l'Oise. C'est impérial.
C'est une ville bourgeoise.
Vous avez beau venir même du 16e. Hein. Si vous avez la tête du Reveux qui travaille à l'usine, bah pour eux, c'est la même.
Et c'est pas le changement, la transmission de l'élite. Du coup, ils sont sous le choc en voyant la nouvelle génération issue de l'immigration et qui rejoint l'élite. Alors, ils ne supportent pas ça.
Le vrai problème, c'est qu'ils s'attaquent à Ahmed. Pour tout un tas de raisons.
s'attaque à Ahmed parce que c'est un jeune camarade de 28 ans qui depuis 4 ans milite, qui a ce qu'on appelle du charisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le suivent, et c'est parce qu'il est un bon militant que la direction s'attaque à lui, et parce que c'est un militant, je le redis, honnête, franchement honnête.
Avant tout, je suis un ouvrier. À mon avis, un délinquant, il ne viendrait pas travailler. Il ne viendrait pas travailler pour 1300 euros par mois. En plus, c'est fatigant, il faut se réveiller tôt. Voilà, il fait froid, moi je travaille à l'extérieur et tout. Et là, vous voyez qu'il neige. Mais voilà, il neige, mais moi je travaille toujours à l'extérieur.
La force des travailleurs,
c'est la
mer. La force des travailleurs,
c'est la
mer. La force des travailleurs. Soit un arabe, un noir, un chinois, un français. Ouais. On respecte tout le monde, on est des ouvriers.
Ouais.
C'est eux là-bas qui ne respectent pas.
Ouais.
C'est eux là-bas qui doivent nous respecter.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on fait là? La part des travailleurs,
c'est la grève.
La part des travailleurs,
c'est la grève.
Vive les ouvriers.
Ouais.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello. La racaille relève la tête.
Flight number 2. Arriving from.
Il est 10h. Et là, j'ai rendez-vous sur le parking de l'usine de Peugeot Citroën, PSA, à Aulnay. C'est dans le 93. Dans la banlieue parisienne, j'ai rendez-vous avec Amen. Alors, je suis sortie de la gare, mais il n'y avait pas de bus à cette heure-ci parce que c'est les bus qui vont à l'usine de PSA sont calés sur les horaires de l'usine. Donc là, j'y vais à pied et c'est indiqué soit je vais à gauche à Sarcelles, au Blanc-Ménil, à droite, j'ai Villepin, Tremblay en France, et tout droit, c'est PSA, Peugeot Citroën. 4000 salariés, dont 3000 à peu près ouvriers. Voilà. Et je suis sur le parking de l'usine.
Bonjour.
Bonjour. Ça va et vous?
Bien passé.
Oui. Alors Ahmed, ça y est, on se retrouve sur le parking de l'usine et il est 10h.
C'est pour ça, là je suis fatigué. Même pour parler, j'ai du mal à parler. On a fait 9 ans de nuit.
9 ans de nuit?
Ah ouais, presque 9 ans de nuit. Maintenant je passe en journée, c'est dur. Hein.
Et vous, ça fait combien d'années que vous travaillez à Peugeot, Citroën, hein?
PSA, ça fait 10 ans. J'ai grandi là, à côté. Quand je prenais les tourettes avec mon père, je la voyais, l'usine, je voyais Citroën. J'ai grandi à quoi, 3 km d'ici. Hein. Tremblay en France, j'ai grandi là-bas. Et après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'habite à Villepinte, à côté. C'est une ville à côté collée.
Mais, et vous avez quel âge?
Moi, j'ai 28 ans.
Vous faites quoi à l'intérieur de l'usine?
Je suis chariste. Mon salaire ne dépasse pas les 1750. Avec ma prime de nuit, hein. Si on enlève la prime de nuit et tout, à mon avis, ça fera 1300 euros, même pas.
1300 net et sinon 1750 net.
Ouais, et j'ai hâte d'être à 15h pour savoir qu'est-ce qu'ils me reprochent. Je suis convoqué à 15h pour une demande de licenciement. Le motif, je sais pas pourquoi. Ils vont me le dire tout à l'heure, le motif. Je suis déjà 18 jours de mise à pied.
C'est-à-dire?
Il y a eu déjà 5 sanctions déjà avant.
5 sanctions?
Ouais.
En combien de temps?
À peu près un an et demi.
Depuis un an et demi?
Ouais. C'est un mois de salaire, on va dire 1700 et quelques.
Et comment vous avez fait?
Il y a la solidarité des ouvriers, et de mes copains, mes camarades. Ils ont fait une collecte pour moi. On avait récolté à peu près plus de 4000 euros. On m'a remboursé les 6 jours de mise à pied. Plus on avait remboursé j'étais pas le seul, parce qu'à un certain moment la direction convoquait un militant par semaine des délégués, et là on est en procès avec eux, on est 8 délégués qu'on attaquait au prix d'homme PSA pour discrimination syndicale.
C'est parce que vous êtes syndiqué, enfin vous êtes délégué?
Ah oui, je suis délégué, ça fait 4 ans que je suis délégué. Auparavant, les 6 ans qui sont passés avant, de 2000 à 2006, jamais de problème, j'étais même l'exemple.
Et les sanctions, c'est pour quel motif?
C'est pour le motif, c'est toujours, soi-disant, j'insulte des chefs, moi. Mais moi, j'insulte pas. Regardez comment je suis, 1m88, je fais presque 100 kilos. J'ai des surnoms, le monstre, la racaille, le délinquant, la mafia. Voilà, et non, ça, c'est une étiquette qu'ils veulent me donner. Moi, j'ai jamais insulté quelqu'un de ma vie. Je suis le chemin de mes frères.
Vous avez suivi le chemin de vos frères? Bon, on va aller voir un peu, on part en voiture.
Jadas, Xavier Mathieu. Vous vous souvenez tous, évidemment, de cette altercation entre le journaliste et le syndicaliste. Altercation qui a montré, s'il en était besoin, le fossé entre les médias dominants et ce que vivent chaque jour nombre de Français, nombre de salariés. Cette altercation est un raccourci formidable, mais même si Pujadas n'est pas le seul à penser ainsi, la plupart des grands médias pensent la même chose. Les syndicats ne sont pas représentatifs en France, la grève prend les usagers en otage, elle affaiblit l'entreprise, tout ça n'a même pas besoin d'être expliqué, réfléchi, il s'agit d'évidence. Quant aux manifs d'octobre contre les retraites, eh bien, elles ont échoué. La réforme est passée. Vous vous souvenez Le vieil homme et la mer, le livre d'Ernest Hemingway, ce vieil homme has-been qui n'arrive plus à pêcher de poissons au point que son copain, un jeune garçon, est obligé de le laisser seul. Et le vieux part en mer et il va pêcher, vous vous souvenez, un formidable poisson, un énorme espadon, long comme son bateau, énorme, énorme. Le vieux souffre, le vieux en bave, mais le vieux a le poisson. Mais lorsqu'il revient vers la grève, vers la Havane, les requins arrivent et les requins vont inévitablement, irrémédiablement, bouffer le grand espadon, bouffer le grand poisson. Et lorsque le vieux arrive enfin sur la grève, il n'y a plus que la tête et l'arête du poisson. Et il rejoint sa bicoque au lever du jour, portant les rames et portant le mât et portant la toile et tombant à plusieurs reprises. Ça finit bien, ça finit bien. Non seulement parce que le vieux retrouve le garçon qui va lui acheter des trucs à manger, si vous vous souvenez. Et aussi parce que le vieux a gagné. Le vieux a gagné. C'est la victoire dans la défaite. La victoire dans la défaite. C'est-à-dire que le vieux a retrouvé sa dignité, sa grandeur à cause du combat, à cause de la lutte qu'il a livrée. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui avec ces salariés de Peugeot, Citroën, Aulnay-sous-Bois. Ouais, pensez-y à ces gens qui luttent, qui résistent, parce qu'ils ont tout simplement le sens de la dignité. Je vais employer un très gros mot, le sens de l'honneur. À la fin de l'histoire du vieil homme et la mer, le vieux s'endort et rêve de Lyon.
Le bus vient de le déposer. Il pointe et ne reverra le jour qu'avec la rosée. D'ailleurs, l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend séquence son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigué mais content de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler. À emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché. À peine le plancher foulé, 8h à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte. Des gars comme lui, y'en a à l'appel, profession, OS, comme il les appelle, dans les boîtes d'intérim, ouvriers spécialisés, ferme-la et trim, l'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Façon, lui ne fait que ça de cogiter, même agité, pense à tout pour s'évader. vois ces gosses gambader, se rappelle du week-end dernier, les conneries du JT. Merde, descend vite fait sur terre, son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. Envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat il y a 3 mois chez Adeco. Maintenant c'est lui fait de presse, plus de stress, il galope de poste à poste avec cette cadence qui l'oppresse, l'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose, 1h30, que vienne son heure de pause. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Ils m'ont pris toute ma jeunesse là, ils sont... Déjà je suis jeune et ils m'ont pris toute ma vraie jeunesse de 18. Moi je suis rentré à 18 ans moi chez eux. J'ai fait un bac pro et après j'ai arrêté. J'avais marre. Je me suis inscrit à la boîte d'intérim, le lendemain ils m'ont appelé, ils m'ont emmené à Citroën.
Vous pensiez aller à l'usine, vous, Ahmed ?
Non, je ne me voyais pas du tout à l'usine, moi. Je me voyais, ça va être un peu gros, mais je me voyais footballeur, moi. Comme tous les petits jeunes.
Et alors, l'usine, le premier jour, ça a été...
Oh là là ! Déjà, il y a une phrase qu'ils m'ont dit chez PSA quand je suis rentré, je l'oublierai. C'est rentré dans ma tête. Ils nous font une visite d'une journée. Et à un moment, ils nous ont dit une phrase. On n'avait pas le droit à l'erreur. Hein. Et une voiture de perdu, c'était 100 000 francs de perdu, 100 000 francs de perdu, 3 mecs au chômage. Cette phrase-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Elle est... Genre, c'est grâce à eux qu'on vive. On arrive à vivre. Mais non, moi, je pense pas. C'est grâce à nous qu'ils vivent, moi, je pense. Hein. Parce que s'il n'y avait pas d'ouvriers, les voitures, elles sortent pas. Hein. Bon, après... Quand je suis arrivé sur la chaîne, le poste, moi j'ai jamais touché un truc avec mes mains. Waouh, c'était dur. Bah c'est les mains qui travaillent, l'esprit il est ailleurs. On pense à l'extérieur, on pense à tout.
Votre esprit il était où ?
Oh, il était partout. Je me disais qu'est-ce que je ferais ce week-end. Bon j'étais jeune, 18 ans. Je m'imaginais beaucoup de choses. Hein. Mais c'est à la fin du mois quand on voit la paye, on est 8000 francs à l'époque, ouais, 8000 francs. Mais je me disais, bon, purée, pour un boulot comme ça aussi dur, 8000 francs, c'était rien du tout. Hein. Ah ben, il y a mon meilleur ami qui m'appelle là. Ouais, chinois. Quel café ? Y'a qui ? Bah non, Ahmed, il voudra pas, je suis avec une journaliste. Ahmed, je pense pas être Ahmed.
Mais y'a pas d'image.
Hein ?
Y'a pas d'image.
Donc, bon, vas-y, j'arrive.
Hey, elle ment là, hein, Pascal Pascariello. Elle ment, Pascal Pascariello, quand elle dit qu'il n'y a pas d'image. Eh, hey, ça fait combien de temps ? Il est 15h26, l'émission a commencé il y a plus d'un quart d'heure. On en a vu des images, non ? On en a vu des images. On le voit, le Ahmed, 28 ans, 1m80 et quelques, presque 100 kilos. On voit l'ambiance, on voit l'usine, on voit ce qui se passe autour. On voit ça très très bien. Et on comprend très vite la situation. Et on comprend qu'on est dans une situation... paradoxal, parce que les luttes sociales, ce sont des vieilles lunes. Ces vieilles luttes sont de vieilles lunes. Les luttes ouvrières, c'est des trucs pour les comiques, pour les chansonniers, pour faire des sketchs. Luttes ouvrières, enfin, c'est des choses entièrement dépassées. Aujourd'hui, on vit dans un autre monde mondialisé. Vous savez, le monde mondialisé. Il n'y a plus la place pour toutes ces choses-là. Et puis alors, il y a un problème de culture avec ces gens-là. Ahmed, il y a des problèmes de culture aussi, et la tradition ouvrière, etc., le bleu de chauffe, le drapeau rouge, c'était très joli, mais ça c'est du passé. C'est du passé qui est peut-être pas entièrement passé.
À l'usine, je connais beaucoup de gens. Avant, j'ai jamais eu de copains français.
Ah bon ?
Non.
Comment ça, vous êtes français en même temps, hein ?
Ouais, mais regardez ma tête, je ressemble pas vraiment à un français. Quand je dis copain, j'avais pas beaucoup de liens avec des copains blonds, on va dire... Dans les cités, il y a quoi ? Il y a 80%, c'est des maghrébins, d'origine maghrébine et des africains. Hein.
Et vos copains de la cité aujourd'hui, ils font quoi ?
Ils travaillent tous parce que ils n'ont pas le choix. Hein. J'en ai beaucoup qui travaillent dans le transport. Ils font livreur, chauffeur-livreur. Pas prof, ils sont pas... Si, il y en a un qui est prof. Si, il y en a un qui est prof. Et j'en ai beaucoup qui font taxi, par contre. Là, c'est devenu la mode, maintenant. Dans les cités, il y en a beaucoup qui font taxi. Voilà, mais vous inquiétez pas, hein. Si vous voulez entendre qu'ils vendent du shit, ils tiennent les bâtiments, non, ils tiennent pas de bâtiments.
Ah, c'est pas rigolo alors, moi j'arrête. Hein.
Ah, voilà, maintenant je comprends les journalistes. Ils cherchent que ça, là, les dealers, les voyous. Non.
Ah, bah attendez, moi je me fie aussi au reportage de TF1. Hein. Tremblay, c'était le titre. Mon voisin
est un dealer.
Mon voisin est un dealer.
Ouais, j'avais la haine, hein. Mais ça, c'est TF1 qui a fait une connerie. Parce que ils ont interviewé beaucoup de gens, des adultes. Mais dans le reportage, ils n'ont pas montré les gens ce qu'ils disent. Ils ont mis que ce qu'ils ont voulu entendre, ce qu'ils ont voulu mettre. Les petits jeunes qui insultent, voilà, non. Bah c'est, non.
Ça se passe à Tremblay en France, TF1, à 25 km de Paris, juste à côté de Roissy.
30 mars 2010.
Une ville verte et riche grâce à ses entreprises. 35 000 habitants, des pavillons, des immeubles résidentiels. Mais à quelques dizaines de mètres de la mairie, alors qu'on ne s'y attend pas, en plein centre-ville, dans ce quartier, un supermarché de la drogue. Au moins 6 immeubles sont occupés par des dealers le jour et une partie de la nuit. Les locataires sont excédés.
Si vous savez le mal vie que nous vivons ici, j'ai la haine contre eux. Trafic de drogue, insolence, menace, je vais t'égorger tout ça.
Monsieur. Vous en avez
ras-le-bol,
monsieur ?
J'en ai ras-le-bol.
Je vais vous montrer où j'ai grandi. On est au centre-ville.
De Tremblay.
Voilà. Ça, c'est la cité.
Vous avez grandi où ?
On a le gros tour là-bas, là. À 15 étages, là-bas, là.
De toutes les couleurs ?
Voilà. Rouge, on peut dire rouge, bleu, gris, là. Nous, ça fait depuis 2003, on est partis d'ici. Mes parents, ils habitent de l'autre côté. Du côté du Vert-Galant, ils ont un pavillon là-bas. Moi, j'habite à Villepinte.
Dans un pavillon aussi ?
Voilà.
Et ça a fait quel effet justement quand vous êtes passé dans un pavillon ?
Ah, c'était magnifique. Tu veux faire du bruit, tu fais du bruit. Tu veux pas faire du bruit, bah, y a pas de bruit. Hein. Les gens, ils dorment à 20h. Bah, c'est pas parce qu'on a un pavillon qu'on a réussi. Hein. Parce que le pavillon, là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de le payer encore. Hein. Je suis en train de payer un crédit. Hein. Mais moi, le pavillon, parce qu'on voulait plus de. Par rapport à mes parents, nous, on habitait au 9e étage. Ma mère qui était malade, elle a l'arthrose, elle est malade, elle est vieille, ma mère. L'ascenseur, il y avait une année, l'ascenseur, pendant 6 mois, elle était en panne. On avait un 9e étage, ma mère, il faut la porter. Pour qu'elle, quand elle descend, ok, mais pour monter, elle ne peut pas monter, il faut la porter. On a dit, allez, on achète. Avec mon père, ils ne s'ennuient pas maintenant. Ils cultivent les petites pommes de terre, les tomates, voilà. Moi, je ne pouvais pas avoir un crédit tout seul, mon père ne pouvait pas avoir tout seul. Ben, on a acheté la maison à deux.
Et vos parents, ils font quoi ?
Ma mère, elle est mère au foyer, et mon père, il travaille dans le bâtiment. Au matin, ils travaillent plus, ils sont retraités.
Ils sont arrivés, vous savez, en quelle année, vos parents, du Maroc ?
Ouais, en 70. Voilà.
Allez, on sort.
Voilà une journée particulière dans la vie d'Ahmed, quand même. Hein. Syndiqué, mais avec une stigmatisation, comme on dit, avec une répression patronale contre lui, au fur et à mesure que... Ben, les luttes prennent corps. Alors, la lutte sociale, la lutte de classe, non ? Enfin, mettons ce mot-là de côté, c'est encore un gros mot. Encore un gros mot. Enfin, en tout cas, ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et des gens comme, même si la grève est un droit constitutionnel, des gens comme Ahmed, on n'aime pas trop.
Et comment vous êtes syndiqué ? Pourquoi vous êtes syndiqué ?
Comment ? C'était en 2004. J'avais un poste qui était un peu dur. J'ai été voir mon chef. Au lieu de m'enlever un peu de boulot, il m'a rajouté plus de boulot. Je dis, moi, je peux pas, j'arrive pas. Et après, j'ai rencontré un délégué de la CGT, M. Keltemis, là. On discutait. Il m'a fait comprendre le syndicalisme, comment faire. À force de discuter avec lui, j'ai compris des choses. Je me suis syndiqué, j'ai pris ma carte. Bon, j'ai mis mon badge, le macaron, le gros macaron, je l'ai mis. Et voilà, tous les problèmes commencent. Jusqu'à la grève de 2005, à la clarté. C'est comme si qu'on avait attaché des 100 pitbulls et après, la chaîne, elle s'est craquée. Les gens se sont liquidés. Voilà, et comme c'était un succès, la grève, on l'a gagnée.
C'était une grève qui était pour demander
100%, parce qu'il y avait du chômage.
Chômage technique, et donc...
Ils voulaient nous payer à 60%, et nous, on ne comprenait pas pourquoi ils voulaient nous payer à 60%. Nous, on a demandé à être payés à 100%.
C'était votre première grève ?
Ouais, c'était ma première grève, ouais. Je me suis mis devant. Et quand on avait des négociations avec la direction, j'étais perdu. Hein. Déjà, juste leur vocabulaire, comment ils parlaient, moi, je comprenais pas du tout. Hein. Mon cœur, il tapait fort, hein, parce que je bégayais même, pour vous dire. Quand je me levais pour parler, je me disais, oh, je parle au directeur, moi.
Un petit caresse qui parle avec le directeur. Bon, mais après maintenant, ça y est, ça vient naturellement. Hein.
Et maintenant, leur vocabulaire, leurs mots, leurs trucs.
Non, il y a des mots que j'ai du mal à comprendre par contre. Il y a des mots que j'ai du mal à vraiment comprendre.
Parce que vous savez, les patrons, ils sont très très forts là-dessus pour pouvoir impressionner, comme il disait tout à l'heure. Il était presque titanisé.
Bah, un bon ami à moi.
Votre prénom?
On va dire Gino.
On va dire Gino.
Parce que tout le monde m'appelle Gino, c'est vrai que c'est pas mon prénom, c'est pour ça que ça les fait rire. Mais les patrons, ils sont loin d'être cons, parce qu'ils cernent un peu les personnes qu'ils ont devant. Donc du coup, ils essaient un peu de déstabiliser, c'est leur but. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir les grandes phrases, les grands mots, machin et tout. Mais en fait, c'est que de la connerie, quoi.
Lui aussi, il est délégué du personnel dans une société.
Du personnel, délégué syndical et conseiller des salariés. Et au final, je me foutais de sa gueule.
Il se foutait de ma gueule un peu. Oh, CGT, ah, CGT. Et maintenant, ils sont tous dedans.
Est-ce qu'on s'est foutu de vous, justement, vous, quand vous êtes syndiqué?
Vous savez, quand vous essayez de raconter une blague et elle n'est pas marrante, là, on se fout de vous de gueule. Mais quand vous racontez la vérité, on va rire, sourire, mais on va vous écouter. Mais l'histoire de l'usine, il n'y a aucune usine qui est correcte avec ses salariés. Aucune. C'est le profit. Et le jour où il n'y a plus de profit, on les jette dehors et on va voir ailleurs. On va s'installer en Chine, en Hongrie, en Roumanie, quelque chose comme ça. Vous voyez?
Dans le classement des ventes de monospaces en France, le C4 Picasso occupe la première place, la deuxième place, la troisième place, la quatrième place.
J'espère que vous allez me donner la réponse. Une réponse est la bonne.
Je crois que je vais jouer C.
C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Mais non, la réponse est bien sûr la première place.
Citroën a encore le dernier mot. Profitez de 3 500 € d'avantage client sur Citroën C4 Picasso collection suréquipée.
Moi, je suis d'origine marocaine, français d'origine marocaine. J'ai grandi en banlieue.
D'accord.
À Tremblay, en France.
Vos parents, ils faisaient quoi?
Moi, mon père était invalide, donc il n'a pas pu travailler. Et la maman au foyer. Mère au foyer. Voilà. Ils ont galéré à leur façon pour pouvoir éduquer le mieux possible leurs enfants. Déjà, c'est un bon travail.
Vous êtes combien?
3. C'est bizarre, hein?
Pourquoi c'est bizarre?
Vous attendez à ce que je vous dise 8, 10? Non, mais à première vue, vous, si vous passez dans votre véhicule et que vous voyez 4 jeunes comme ça devant un café en train de boire leur petit café tranquillement le matin, est-ce que ça vous fleurerait l'esprit qu'on est un parti syndicaliste ou quoi que ce soit, non? Qu'on est engagé, ne serait-ce qu'avec la CGT, par exemple? Non, à aucun moment. Mais par exemple, si on était nous, 4 jeunes, en train de brûler une voiture, là, ça, c'est pas que vous avec le micro. Ce sera vous, il y aura d'autres micros, il y aura des autres caméras, il y aura toute une panoplie, en fait. En fait, aujourd'hui, les jeunes de banlieue, c'est pas ce qu'on montre à la télé, en fait. Vous voyez, donc ils se sont dit, on va aller les prendre, on va les ramener dans l'usine, on va les faire travailler, on va leur faire casser des pierres, et on leur donnera quelques cacahuètes, ils seront bien contents.
Vous bossez où, dis-moi?
Moi, je travaille dans une boîte de transport. C'est un exemple type. Hein. Ma boîte où je bosse, donc ce patron en question, quand je posais les mauvaises questions, hop, je me suis dit, mais c'est con, j'ai posé que des questions, j'ai rien fait d'autre de mal. Comment ça se fait du jour au lendemain, il est devenu méchant comme ça?
Et du coup, ça donne envie de faire quoi au début? Enfin, je sais pas, moi je me dis.
Ça donne envie de, en fait, de rentrer plus dedans et à poser d'autres questions. Et en posant plein de questions, machin comme ça, on se retrouve dedans et on se retrouve un peu à, comment on appelle ça, à défendre les salariés sans le vouloir. Et vous savez, là où on se rend compte qu'ils prennent vraiment un coup de flip parce qu'on a essayé de m'acheter à plusieurs reprises. Bah écoutez, on peut vous donner un poste de responsabilité. Finalement, vous n'avez pas l'air si con qu'on croit. Donc on vous dit directement, vous avez pris pour un con, mais je veux bien vous donner un poste de responsabilité aujourd'hui. Mais comme on dit, on n'est pas vendable.
Il est quelle heure?
Il est midi,
on est en retard?
On va y aller là.
On va à l'usine? Non, on passe chez vous?
On passe chez moi et après on... Déjà je m'habille.
Après... C'est parti pour...
Pour le combat.
Le combat.
À 15h ils vont vous dire... ça va être décidé aujourd'hui?
Non. C'est juste... aujourd'hui c'est mon entretien. Bon, ils vont me dire qu'est-ce qu'ils vont me reprocher. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont me reprocher. Voilà, et après ils vont m'envoyer un courrier pour savoir... soit ils arrêtent, soit ils continuent. Bon, on y va?
On y va.
Je suis le premier d'une grande famille, arrivé en France pour éviter la famine. Du bled de mon enfance, jeune immigré, squelettique et amaigri. En mer migrée, passe au savoir écrit Eldorado. Mon père te cherche en vain. Maghrébin, Comorien, Sénégalais, Italien, Espagnol, Ivoirien, Portugais, Mauritanien.
Willy, Willy, Willy,
vous habitez où? Au 5?
Voilà.
Ah, c'est une petite maison, en fait.
De l'extérieur, elle apparaît petite, mais l'intérieur, ça va, elle est grande. Il y a trois chambres, il y a un salon, il y a un petit garage. Non, non, ça va, elle est grande. Allez-y, je vous en prie.
Alors ça, c'est le salon?
Ça, c'est le salon.
Il y a un jardin derrière?
Ouais, un petit jardin, c'est un petit jardin. Faut tendre de la pelouse, là. Bah, moi, je me suis marié en 2007. Oh, il y a le téléphone de la maison qui sonne.
Je vous laisse répondre.
Salam. Eh, khachou, les gars. Ma maman, elle m'a demandé si j'ai mangé ou pas.
Elle sait ce que vous êtes convoqué, vos
ouais,
parents.
C'est. Mon père nous a éduqués d'une manière, c'est... Tu te laisses pas faire, tu baisses pas la tête. T'as un problème, tu vas voir ton chef et tu t'expliques. Bon, et lui, c'est comme ça encore, mais bon...
Il est pas trop pour les grèves, pas trop pour les syndicats,
non,
votre
non.
père.
Ah, au début, il me dit, ah, toi, tu défends les gens, t'es l'avocat des gens, toi, quoi. Bon, maintenant, quand les gens viennent le voir, ils lui disent... Ah, franchement, t'as laissé un homme, ton fils, un... il est heureux. Il est... Bon, il le dit pas parce que il montre pas, il le mendie. Mais ma mère, elle me le dit. Voilà. Bon, je vais m'habiller pour qu'on puisse aller.
Parce que là, on va y aller pour la convocation à 15h. Mmh. Vous appréhendez quand même parce que...
Un peu, mais j'y pense pas. Parce qu'il y a 280 postes de supprimés. Il faut qu'ils essaient de nous écarter de ces problèmes-là pour qu'on se défend sur nous-mêmes. On se défend. Ils veulent pas qu'on attaque. Bah, ils disent, bon, faut qu'on attaque un délégué un peu connu pour qu'il s'occupe à le défendre. Mais nous, on fait tout.
Justement, par rapport à PSA, en plus, vous avez un t-shirt PSA. Hein.
J'ai un truc, ouais. Parce que là, bon, on s'apprête à aller au travail. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis. Là, faut que je mette mon bleu et moi ma veste et après, je vais y aller. Maintenant, moi, je suis obligé de m'habiller chez moi. Parce qu'il y a 2 ans, on m'a cassé mon vestiaire, mon placard. 3 fois de suite.
À l'usine ?
Ouais, à l'usine. À chaque fois, ils m'ont pris mes affaires. Ils ont pris un manche à balai, ils l'ont coupé en deux, ils ont mis la moitié d'avant.
La moitié d'un manche à balai.
Voilà, ça veut. Bon, on se comprend ce qu'ils veulent dire par là. Je venais juste d'être délégué CHS.
Bon, CHSCT, c'est-à-dire comité hygiène, sécurité.
Ouais, conditions de travail. On m'a rayé ma voiture. Tout ça, j'ai porté plainte, le vélo. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est les inscriptions sur ma mère dans les toilettes. Ah là, c'était... Pendant un an, c'était... Dans toutes les toilettes du montage, il y avait marqué des inscriptions sur ma mère.
Voilà. On vous disait quoi?
Bérezel, fils de chienne, de Berkane. Berkane, c'est la ville natale de mes parents. Ils veulent que je craque. Je suis sûr, ils veulent que j'arrive au point pour que je tape, pour qu'ils aient une raison valable pour me virer, pour faire quelque chose.
Ahmed, ça y est, vous avez quoi Ah oui, les chaussures de sécurité?
Tout.
Tout, hein? De sécurité et pantalon, PSA et
ma veste jaune.
Anorak, la veste jaune.
Voilà.
Hop. Bon bah voilà, j'ai laissé Ahmed rentrer à l'intérieur de l'usine puisqu'il est convoqué à 15h, que là il est 14h. Et je vais essayer en fait de rentrer dans l'usine pour voir comment les ouvriers vont soutenir Ahmed. Ils vont débrayer normalement, mais on ne sait pas à combien, on ne sait pas si le débrayage va être suffisamment important pour que la direction revienne sur sa décision de licencier Ahmed. Et là, il y a un avion qui passe parce qu'on est juste à côté des aéroports Charles de Gaulle. Bonjour. Là on arrive, c'est quoi? C'est un grand hangar. C'est là où on monte les voitures. C'est un grand hangar justement, immense hangar. Ah là il y a du bruit au fond de la salle de montage. Ah il y a une voiture d'ailleurs. C'est la voiture qui sort de la chaîne. C'est impressionnant, elle est flambant neuve. Ah moi je l'ai pas ça, bonjour. Non, licenciement et aux suppressions d'emploi. Avec la photo de Ahmed, c'est un autocollant à mettre sur le thorax, sur le torse quoi. Et là, au milieu de l'usine, dans la salle de montage, tout le monde s'est regroupé et le boulot s'est arrêté. Et le délégué a pris la parole.
Alors il y a une pétition qui a circulé dans l'usine, d'ailleurs celle pour Ahmed, contre le licenciement d'Ahmed. Je rappelle qu'il y a eu 1100 salariés qui l'ont signé. C'est quand même très important.
on est à l'effectif ouvrier à peu près 2400. Ça veut dire que près de la moitié des salariés ont signé une pétition de soutien à Ahmed et à contre le licenciement. Alors quand la direction elle essaye de dire, de faire croire que les salariés sont contre nous, au contraire, ils le prouvent aujourd'hui, ils le sont avec nous.
Une journée particulière dans la vie d'Ahmed, délégué syndical chez PSA Peugeot à Aulnay-sous-Bois. Et là, il est dans la convocation, il est en pourparler avec la direction. Mais évidemment, pendant ce temps-là, les salariés, ses camarades, ceux qu'ils soutiennent, s'agitent à l'intérieur même de l'entreprise.
Alors c'est un tableau qui indique toutes les pannes qu'il y a, tous les arrêts de chaîne, pour que les contremaîtres voient tout de suite quand ils sont dans le couloir, ils sortent de leur bureau et ils voient tout de suite si la chaîne est arrêtée ou pas arrêtée. On connaît
là,
pas tout.
Là, il y a combien de chaînes rouges?
Voilà ce qu'on voit. Ouais, là, il y a, on va dire, un tiers du montage qui est à l'arrêt, là. Et ensuite, là, il y a un autre panneau où ils indiquent le nombre de voitures qui manquent. Il en manquait une vingtaine tout à l'heure, à un moment, quand j'ai regardé.
Donc là, on continue à déambuler dans l'usine.
Ouais, voilà, on passe devant toutes les lignes de montage pour montrer qu'on est là et encourager les camarades qui voudraient débrayer avec nous, qui voient qu'il y a du monde et que ça leur donne envie. On disait les chefs au boulot parce qu'on a vu plusieurs chefs travailler. C'est pour ça d'ailleurs que la chaîne était beaucoup à l'arrêt, parce qu'il y avait un moment, il y avait 3-4 chefs de suite. Là, du coup, ça arrête complètement tout parce qu'ils n'arrivent pas à faire le boulot, en fait.
Votre prénom ?
Patrice. C'est un camarade qui vient des cités, on va dire. Donc c'est un jeune copain.
Ahmed.
Ahmed, oui, Ahmed Berazel. Et ils veulent le licencier parce que justement, il a beaucoup de contact avec tous les jeunes qui arrivent ici et qui découvrent ce que c'est que l'usine, ce que c'est que le syndicalisme. Et là, la direction ne veut surtout pas que ça dure, quoi.
Il reste combien de temps avant qu'il soit convoqué? Il est quelle heure?
Il est convoqué à 15h. Donc là, il est en pleine convocation, là, pour l'instant.
Il est 15h10,
donc on va... Ouais, 15h10, il était convoqué à 15h. Et... Donc là, on continue à tourner. Et quand ils auront fini l'entretien, il va venir nous rejoindre. Voilà, quoi.
Et là, il y a un chef. Je vais rentrer le micro.
Lutte sociale, lutte syndicale à l'intérieur, même... de l'entreprise. Vous inquiétez pas trop pour Peugeot. Vous avez vu, il y a des chaînes qui sont en panne et des voitures en moins, mais vous inquiétez pas trop. PSA a un chiffre d'affaires en augmentation. PSA a annoncé en octobre 2010 9,8% d'augmentation de son chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires de 41,4 milliards d'euros pour 2,66 millions de voitures vendues, fabriquées par des gens comme Jean-Pierre.
Vous savez, ici, tout le monde vient d'une cité, hein. On est ouvrier. Ce qui est sûr, c'est qu'ils tapent sur les jeunes parce que c'est eux qui refusent le plus les sales conditions de travail dans lesquelles ils veulent nous faire travailler. C'est eux qui refusent le blocage des salaires. C'est eux qui veulent faire embaucher leurs copains qui sont intérimaires. C'est eux qui demandent à ce que les vieux, ils partent à la retraite à 55 ans parce qu'ils sont en train de crever sur chaîne. Et c'est vrai que c'est les jeunes aujourd'hui qui relève la tête, mais c'est aussi derrière tous les anciens qui suivent. C'est le représentant de toute cette jeune génération d'ouvriers qui ont compris que leur seul avenir, ça sera de lutter collectivement contre PSA pour imposer des revendications où on puisse s'en sortir quand même. Parce qu'il y en a, franchement, il y en a marre de travailler dans ces conditions, il y en a marre d'avoir des salaires de merde comme on a. Et il faut que ça change. Alors quand il y a une direction comme PSA qui tape sur Ahmed... ouais, c'est sûr, il y a une grosse solidarité, on le voit aujourd'hui.
C'est étonnant quand même.
En tout, sur les deux équipes, il y aura facilement plus de 400 ouvriers qui auront participé au débrayage. Et c'est une belle démonstration de force et c'est qu'une première étape parce que c'est certain que la direction, elle va pas en rester là. Ils vont sûrement continuer, il y aura d'autres grèves pour défendre Ahmed. Et puis il y a aussi la direction, elle utilise toutes les provocations, elle a fait monter au créneau son syndicat maison, le syndicat patronal, le SIA. C'est un syndicat que personne ne connaît à l'extérieur de Citroën.
Il s'appelle SIA.
Il s'appelle SIA, syndicat... c'est le syndicat indépendant de l'automobile. En fait, ils sont indépendants surtout des ouvriers. Et ils ne sont pas du tout indépendants de la direction. C'est, historiquement, c'est un syndicat d'extrême droite. Il découle de la CSL, Confédération des syndicats libres, de la CFT, Confédération française du travail. C'est un syndicat qui a été mis en place par la direction de Citroën dans les années 60-70, qui avait des liens avec le sac de Pasqua. Enfin, tout ça, c'est des vieilles histoires. Son slogan, c'est travail, famille. On se doute du reste et ils ont fait dans leur tract un tract incendiaire. Ils parlent de jungle. Ils disent « Nous ne sommes pas dans la jungle ».
Ça voudrait dire quoi, que PSA est une jungle ?
Les ouvriers, pour eux, c'est des animaux. Voilà, c'est des singes, des animaux. Voilà ce qu'on peut comprendre de leur phrase, où tout le monde l'a ressenti, qu'on soit immigré ou pas, comme une insulte. De toute façon, ils déversent vraiment leur haine, tellement ils ont de zèle à défendre le patron. La réponse, elle est claire, elle est nette. C'est des centaines d'ouvriers qui débrayent et qui vont débrayer encore jusqu'à temps que la procédure de licenciement elle soit levée sur Ahmed. Et moi, j'en suis convaincu, on va le sauver et il va rester parmi nous.
On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. C'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous, prolétaires et banlieusards. Le deux, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime mais un soldat qui a tout fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres. Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. Leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Toi vois qu'un lâche ou un soldat, entreprend et bat-toi. Banlieues arrivent fiers de l'être. On n'est pas condamné à l'échec.
Hein? Alors Ahmed, comment ça s'est passé? C'est une victoire ou quoi?
Bah moi je pense que c'est une victoire. Ce qui me reproche c'est bidon. Ils disent que l'entretien du 25 et c'est mal passé, on n'a pas eu le temps de le finir. C'est bidon.
Vous aviez eu déjà un entretien le 25 octobre?
Voilà. Et là, ce qu'ils me reprochent maintenant, c'est parce que, soi-disant, l'entretien s'est mal passé. Mais non. Pour vous dire, d'habitude, ils disent on vous convoque pour une sanction. Là, ils n'ont pas dit on vous convoque pour un licenciement. Ils n'ont même pas dit ça.
Alors du coup, vous êtes sorti, vous disent reprenez hein le boulot, tout va bien?
Bah non, ça, c'est l'entretien. Après, ils vont m'envoyer un courrier, à mon avis. Ils vont m'envoyer un courrier si ils me licencient ou ne me licencient pas. Ah, je sais pas.
Mais ils n'ont pas parlé de licenciement, là?
Non, j'ai pas entendu le mot de licenciement dans leur bouche. Hein. Je l'ai pas entendu. Là, c'est que la première étape. C'est le premier rang. On leur a mis. Voilà. J'ai pas de mots. On va faire en sorte qu'ils arrêtent. Mais je leur donne un conseil. Monsieur PSA, arrêtez vos conneries. Je suis content, je suis l'homme le plus heureux du monde. Hein. C'est bien passé, il y avait plus de 400 personnes qui ont débrayé. Là maintenant, c'est la direction qui a une boule au ventre. Moi, j'ai pas eu de boule au ventre. Il n'y a que la usine à PSA qu'on voit ça. Surtout, moi, je travaille en logistique. Toute la logistique est arrêtée. Vous savez, du petit jeune qui a 18 ans jusqu'à le vieux qui a 60 ans, ils se sont tous arrêtés. Toute
vous
la
avez ressenti quoi?
Heureux, fier. Fier de ce que je suis là, ce que je suis devenu. Hein. Voilà, bah oui, je suis fier. Vous savez, 400 personnes. Même à mon mariage, j'avais pas autant de monde. Voilà, maintenant la pression, elle est retombée. Elle est retournée contre eux, elle est
bah,
pas contre eux.
Si vous baissez la tête, bah, ils y arriveront jamais. Jamais, jamais, jamais.
Il y a le compte-rendu.
On va écouter pour le compte-rendu pour Ahmed. Alors.
Ahmed, les camarades, je voulais remercier tous les camarades.
vous remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les camarades de l'équipe A, de l'équipe B, tous les copains des autres syndicats aussi qui sont là.
Les intérimaires.
Les intérimaires, les contrats pro. Et moi, je tiens à vous dire un truc. Le SIA, ils veulent nous salir. Ils disent qu'on est des délinquants. Ils disent qu'on a organisé une chasse à l'homme. C'est eux qui sont en train d'organiser une chasse à l'homme. Contre nous.
Ouais.
Contre moi et contre tous les copains, tous les frères.
Ouh.
Les camarades, moi, le premier, quand je suis venu, c'est pour travailler. C'est à cause d'eux qu'on est... C'est à cause d'eux, moi, j'y... La direction, là, qui nous regarde derrière, là, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux, ils veulent nous monter les uns contre les autres. Moi, je tiens à vous dire, les camarades, faut qu'on reste unis comme ça. Dès qu'il y a un camarade qui a un problème, faut que tout le monde est là.
Ouais.
N'oubliez pas une chose, n'oubliez pas une chose, les copains. En 2007, qu'on a fait 6 mètres de grève, on avait une carte de gréviste. Ouais. Eh ben, faut la ressortir.
Ouais.
Faut la ressortir.
Ouais.
Dès qu'on touche un copain, on a touché à tout le monde.
Ouais.
Et je tiens à vous leur dire là-bas, on n'est pas des délinquants.
Ouais.
On n'est pas des délinquants.
Ouais.
Et c'est pas la jungle.
Ouais.
C'est pas la jungle.
Ouais.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
C'est des ouvriers.
Ouais.
Merci.
C'était Ahmed.
Aujourd'hui, on est là et demain on continue. Aujourd'hui, on est là et demain. On...
Les camarades, j'ai oublié un autre truc. C'est que toute la semaine, la direction elle est passée sur la chaîne. Et les autres syndicats sont passés sur les chaînes. Ils disaient comme quoi, Ahmed c'est un délinquant, il tape les gens, il insulte les gens. Vous voyez tous les gens qui sont là, les copains. Moi, c'est la preuve comme quoi je suis pas un délinquant, j'ai jamais insulté qui que ce soit. Je respecte tout le monde, que ce soit un arabe, un noir, un chinois, un français. On respecte tout le monde, on est des ouvriers.
Ouais.
C'est eux là-bas qui ne respectent pas.
Ouais.
C'est dans leur entrée qui doivent nous respecter.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait un petit tour, on fait un petit tour et après on reprend le boulot. La force des travailleurs,
c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
La force des travailleurs,
c'est la grève.
C'est les ouvriers.
Bon, on n'est pas délinquant, vous voyez,
je sais pas.
Regardez comment c'est bien. Il y a un Portugais, il y a un Arabe, il y a un Algérien, il y a un Gaouri, il y a des Marocains, il y a des Kabyles, voilà. On n'est pas délinquant, on est
surtout aussi, moi, des syndicalistes. C'est des anciens comme M.
Zouer.
Vous avez quel âge?
59 ans. 37 ans de travail, bientôt 38.
Chez PSA.
Quand ce monsieur-là a fait grève, en 82, j'avais 4 mois.
Franchement, moi, ces anciens-là, là, les anciens de 82, c'est le plus beau exemple. Parce que 82, c'était une année pas évidente. Pour les étrangers, ils ne savaient ni lire ni écrire à l'époque. Bon, nous, ça va, nous, on a été à l'école, on a eu des diplômes. Mais ces gens-là, c'était plus difficile. Déjà, la chaîne, c'était tout ce qui était manuel. Il y avait pas de... Le travail, il était plus dur.
Nous, on est content le moment qu'ils ont rentré les jeunes. On est content. Parce que les jeunes, ils étaient à l'école, ils connaissent la loi, ils connaissent tout. Mais nous, avant, les vieux, surtout les vieux qui sont partis en retraite, ils viennent du montant, ils ne connaissent rien du tout.
On est là pour défendre les ouvriers. Un exemple, Ahmed, à chaque fois qu'il a défendu les ouvriers, bah, il s'est fait sanctionner. Et c'est que des prétextes bidons.
Est-ce que vous croyez qu'à l'époque, ça les embêtait que les ouvriers immigrés se syndiquent? Et aujourd'hui, ça les embête que ce soit les jeunes des cités qui se syndiquent? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu le même... Non? Est-ce que vous pensez que PSA, ils ont le même regard sur vous deux? Vous êtes de deux générations différentes et deux...
Et c'est porté par le changement, la transmission de l'élite, l'ancienne génération. Et ils n'étaient pas combattants comme la nouvelle génération. Du coup, ils sont sous le choc en voyant la nouvelle génération ici de... En général, ici l'immigration qui rejoint l'élite, alors ils ne supportent pas ça.
En 2007, ils pensaient qu'avec les vieux qui partaient, surtout, ils se sont dit chouette, on va pouvoir se débarrasser des vieux, de l'histoire de la grève de Citroën Aulnay. Et finalement, avec la grève de 2007, eh bien, on a vu ressurgir une nouvelle génération de militants, un renouvellement de la combativité. Et ça, s'y attendaient pas. Ils pensaient pouvoir individualiser chaque ouvrier, chaque travailleur sur les chaînes pour pouvoir en tirer le plus de profit possible. Et aujourd'hui, vous avez la preuve aujourd'hui qu'il y a un collectif qui s'organise, des travailleurs solidaires qui se battent ensemble. Et c'est ça qui leur fait peur, c'est ça qui leur plaît pas.
Merci à toutes et à tous. Merci à Ahmed Berazel. Merci à Gino, Jean-Pierre et Philippe et à tous les salariés de l'usine PSA d'Aulnay. Monsieur PSA, arrêtez vos conneries. On vous l'a dit. Je rappelle que cette banlieue, jadis, s'appelait la banlieue rouge. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Romain Luciens. Coyenne Guyenne et Franck Adhéret ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillez attend vos messages au répondeur de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Lorsqu'une lycéenne est enceinte, il faudrait qu'elle poursuive ses études pour assurer son avenir et celui de son enfant. Mais pour assumer son rôle de mère, elle devra arrêter sa scolarité. Alors, on en reste là ou on trouve une solution?
Suzanne a mis en place un suivi personnalisé pour les mères encore élèves au lycée Jean Moulin de Roubaix. Si vous voulez soutenir ce type de solution, rendez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, les questions de société méritent des réponses.
Les arts de la table.
Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé?
J'ai simulé un cambriolage dans notre cuisine.
Quoi?
Oui, j'ai cassé un petit carreau et j'ai piqué toute notre vaisselle.
Votre vaisselle?
22 ans de vaisselle, mon vieux, 6 caisses, j'en pouvais plus, toujours les mêmes assiettes, les mêmes couverts.
Et là, ta femme doit être effondrée.
Elle est ravie, figure-toi qu'elle fait déjà les boutiques.
Les arts de la table.
C'est comme la mode, c'est bien quand ça change.
N'oubliez pas que jeudi prochain, à le 9, on part pour le Congo, le Kivu et le Katanga. Il y aura pas mal d'échos avec la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On se retrouve en tout cas demain à 15h pour la basse, j'y suis. Et je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
C'est l'épilogue de 3 années de bataille juridique acharnée. Liliane Bettencourt et sa fille unique Françoise font la paix. Les deux femmes ont signé un contrat dont les termes restent confidentiels. Françoise Meyers-Bettencourt abandonne toutes les poursuites judiciaires en cours contre le photographe François-Marie Bagné et l'avocat Fabrice Goguel. Elle les accusait d'abus de faiblesse sur sa mère. En échange, la milliardaire se sépare de son gestionnaire de fortune Patrice Demestre et s'éloigne de François-Marie Bagné. Et conséquence de cet accord de paix, Jean-Pierre Meyers, le mari de Françoise, devient directeur général de Tétis, la holding qui contrôle la fortune de Liliane Bettencourt. Les deux petits-fils de l'héritière de L'Oréal entrent à son conseil de surveillance. Il n'y aura donc pas de procès Bagné. Reste cependant le volet politique de l'affaire avec les soupçons de trafic d'influence et de financement illicite de partis politiques qui pèsent sur l'ex-ministre du Travail et ex-trésorier de l'UMP, Éric Woerth. Une information judiciaire a été ouverte sur cet aspect de l'affaire et sera instruite à Bordeaux. La compagnie américaine Continental Airlines, condamnée à 200 000 euros d'amende et 1 million d'euros de dommages et intérêts à verser à Air France. Le tribunal correctionnel de Pontoise a jugé que la compagnie était responsable du crash du Concorde qui avait fait 113 morts en juillet 2000 à Gonesse dans le Val d'Oise. Une lamelle d'un avion de la Continental était tombée sur la piste de décollage du Concorde, ce qui avait entraîné un éclatement du pneu de l'avion. Continental va faire appel du jugement. Le syndicat CGT de Sanofi Aventis dénonce un scandale après l'annonce par le laboratoire français de 575 suppressions de postes, principalement des visiteurs médicaux. La CGT souligne que le groupe pharmaceutique avait affiché en 2010 les meilleurs profits du CAC 40. Les pompiers professionnels du Rhône sont en grève illimitée. Ils protestent contre la baisse des effectifs et l'augmentation du délai de départ en intervention. Concrètement, cela n'affectera pas la qualité des secours, car les pompiers, même grévistes, sont réquisitionnés. Mais ils manifesteront leur mécontentement par des banderoles et des autocollants. En visite à Cherbourg, frappé ce week-end par les inondations, le Premier ministre François Fillon a annoncé qu'il allait hâter le processus de reconnaissance de catastrophe naturelle. La fonte des neiges mêlée aux précipitations et à la marée haute a provoqué hier à Cherbourg des inondations qualifiées d'historiques. La tension ne baisse pas en Côte d'Ivoire où aucune solution ne se dessine pour résoudre la crise politique à la tête du pays. Depuis samedi, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont chacun été investis président et ont nommé chacun un Premier ministre. Des jeunes pro-Ouattara sont descendus dans les rues d'Abidjan et le couvre-feu nocturne a été prolongé d'une semaine par Laurent Gbagbo. L'Union européenne fait planer la menace de sanctions sur le pays. La France appelle à une transition sereine et digne. La communauté internationale reconnaît l'élection d'Alassane Ouattara, mais n'a pas réussi jusqu'ici à convaincre le président sortant Laurent Gbagbo de lui laisser la place. L'ex-président sud-africain Thabo Mbeki est sur place pour tenter une médiation. Tout le monde avait oublié son existence. La médiathèque de Nantes vient de redécouvrir le fragment d'un manuscrit attribué à Léonard de Vinci, qu'elle possédait pourtant depuis plus de 130 ans. Le document avait été légué à la ville par un collectionneur à sa mort en 1872. C'est un journaliste de Presse Océan qui, alerté par une mention dans la biographie de Léonard de Vinci écrite par Serge Bramly, est à l'origine de cette redécouverte. Il s'agit d'un bout de papier irrégulier de 10 cm sur 20 qui porte quelques lignes de la main du célèbre peintre et inventeur.
Mercredi 8 décembre, journée spéciale sur France Inter. 30 ans après sa disparition, John Lennon reste l'un des artistes les plus populaires du 21e siècle. Pendant toute une journée, retrouvez les chansons et les mots de John Lennon dans les émissions et les journaux de France Inter. Une journée 100% Lennon. À suivre mercredi à partir de 5h. France Inter, partenaire de l'exposition L'Antiquité rêvée au Louvre jusqu'au 14 février 2011. À travers peintures, sculptures et objets d'art, la nouvelle exposition du Louvre montre comment l'antique a inspiré les artistes et la société dans toute l'Europe du XVIIIe siècle. Retrouvez l'Antiquité rêvée au musée du Louvre dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon et le Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. La musique de film recèle de très beaux trésors et, par exemple, les films de Hitchcock ont des bandes son, des BO, comme on dit, tout à fait impressionnantes. Quelquefois, ils font peur. Comme celle de Psycho, Psychose, écrite par Bernard Herrmann. Elle figure sur un disque publié par Trafic Quintet. Et l'autre indication, c'est Divine Féminin. Oui, ce sont des personnalités qui vont passer dans ces musiques, si j'ose dire. Sharon Stone pour Basic Instinct, Janet Leigh, Ingrid Bergman, Marilyn Monroe ont été portés par ces musiques-là. Et il y a un beau concert ce soir au Bouffe du Nord à Paris. Et on pourra entendre donc le Trafic Quintet avec une mise en scène. Elle est musicienne, violoniste, mais elle a mis en scène aussi ce spectacle. Dominique Lemonnier et direction artistique. Il a écrit quelques titres dans ce disque. Alexandre Desplat. Voici un extrait de la BO pour Psycho d'Hitchcock, donc écrite par Bernard Herrmann. Le début de ce thème fameux de la bande originale de Psycho, thème écrit par Bernard Herrmann pour le film d'Alfred Hitchcock, dans une interprétation du quintet Trafic Quintet mené par Dominique Lemonnier, transcription pour les cinq instruments par Alexandre Desplat. Donc un beau spectacle avec plein de musique, certaines moins angoissantes bien sûr, ce soir au Bouffe du Nord à Paris. Et puis ce sera après le tour de Metz à l'Arsenal le 3 février, le 2 mars à de la musique à Paris, le 15 à Châlons en Champagne à la Comète et le 25 mars au Lila au théâtre du Garde-Chasse. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais un spectacle intéressant.